VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le républicain Donald Trump prête serment aujourd'hui sur les marches du Capitole, au cœur de Washington, pour succéder au démocrate Barack Obama et devenir le 45e président des États-Unis. Le milliardaire républicain et son épouse Melania vont prendre le thé avec Barack et Michelle Obama avant de se rendre ensemble au Capitole, siège du Congrès. Des centaines de milliers d'Américains, partisans enthousiastes de Donald Trump ou farouches opposants du prochain locataire de la Maison-Blanche, sont attendus sur les larges pelouses du National Mall, la grande esplanade qui fait face au Capitole. Trois prédécesseurs du milliardaire républicain seront également présents, Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton. Ainsi, Hillary Clinton, son adversaire malheureuse pendant la campagne présidentielle. L'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis comprend plusieurs événements et cérémonies ici à Washington. Le point d'orgue sera la prestation de serment. Eric Manirakiza.
Donald Trump, Mike Pence et leur famille vont d'abord participer à un office religieux à l'église épiscopalienne Saint John, tout près de la Maison-Blanche. Puis seront reçus par le président Barack Obama et sa femme Michelle pour un thé. Les deux couples se rendront ensemble au Capitole où se tiendra la cérémonie d'investiture. Mike Pence sera investi vice-président par Clarence Thomas, juge de la Cour suprême. Donald Trump, quant à lui, sera investi 45e président des États-Unis par John Roberts, président de cette cour. Il va prêter serment sur la Bible utilisée par l'ancien président Abraham Lincoln et la Bible que sa mère lui a donnée en 1955. Suivra ensuite son discours d'investiture. Juste après, une jeune soprano de 16 ans, Jackie Evancho, chantera l'hymne national, la bannière étoilée. Conformément à la tradition, messieurs Trump et Pence assisteront à un déjeuner au Capitole avant de défiler sur environ 2,4 km le long de Pennsylvania Avenue qui relie le Congrès à la Maison-Blanche.
Donald Trump a passé hier sa dernière journée de simple citoyen à New York, une ville où il a vécu et travaillé jusqu'à présent. Quelle est l'ambiance à New York avant son investiture aujourd'hui à Washington? Jack Aristid.
La fête pour certains et la riposte pour d'autres. New York, la ville où Donald Trump a fait son nom et sa fortune, se prépare aussi à l'événement phare dans la capitale américaine. Des petits concerts, bals et autres offres spéciales sont organisés dans des restaurants, mais le clou demeure ce rassemblement intitulé « We Stand United ». Comme pour illustrer cette relation d'amour et de haine entre Donald Trump et New York, beaucoup de New Yorkais n'ont toujours pas digéré l'élection du milliardaire et à la tête du pays. Pour rappel, l'État de New York a voté majoritairement pour la démocrate Hillary Clinton en novembre dernier. Devant le Trump International Hotel à Columbus Circle, des milliers de manifestants, présence notamment de certains noms connus, dont le maire de New York lui-même, Bill de Blasio, le révérend Al Sharpton, et des célébrités comme le documentariste Michael Moore, de même que les acteurs Mark Ruffalo et Alec Baldwin, qui s'est attiré les foudres de Donald Trump en l'imitant dans l'émission Saturday Night Live. Pour l'organisateur Houston Krebs, directeur de campagne chez Move On, il s'agit d'une manifestation pacifique pour envoyer un message à M. Trump pour dire qu'ils sont pour l'égalité, les droits civiques et la défense de l'environnement. Move On et des organisations comme le Planned Parenthood et Greenpeace envisagent de tenir d'autres rassemblements à New York ce vendredi et demain samedi, dont un qui coïncidera avec la marche des femmes à Washington ce week-end. Wall Street, de son côté, attendait l'installation de Trump à la Maison-Blanche pour confirmer son euphorie après toute l'excitation qui avait suivi sa victoire en novembre dernier. Jacques Aristide, New York.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise en Gambie, le président guinéen Alpha Condé et son homologue mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz sont actuellement à Banjul pour une mission de la dernière chance. Essayer de convaincre le président sortant guinéen Yahya Jammeh de céder la place sans résistance au vainqueur des récentes présidentielles Adama Barrow. En attendant, les pays de la CDAO impliqués dans l'intervention militaire entamée en Gambie pour forcer Yahya Jammeh à quitter le pouvoir maintiennent leur suspension de l'opération alors que L'ultimatum donné au leader récalcitrant pour jeter l'éponge a expiré à midi, heure locale. 7000 soldats venus du Sénégal, du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Mali participent à l'intervention. Ces troupes avaient déjà pénétré en Gambie par le sud-est, le sud-ouest et le nord quand l'ordre de s'arrêter leur a été donné. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé à l'unanimité une résolution présentée par le Sénégal appuyant les efforts de la CDAO pour faire respecter la volonté du peuple gambien. Et ici à Washington, le département d'État américain a exprimé son soutien à une intervention militaire en soulignant l'importance de stabiliser une situation tendue. Le Sénégal joue un rôle primordial dans cette intervention en Gambie, même si la CDAO et le Conseil de sécurité de l'ONU ont soutenu l'opération. Le journaliste et spécialiste de la Casamance, Bakary Domingo Mané, pense qu'un nouveau pouvoir en Gambie peut aider à stabiliser le sud du Sénégal. Il a d'abord dit à Abdourahmane Dia qu'il n'est pas surpris par l'intervention militaire de la CDAO.
Compte tenu du comportement du président sortant, Yahya Jammeh, qui s'est entêté, disons, à vouloir revenir un peu la volonté des Gambiens qui ont choisi, n'est-ce pas, Barrow comme président de la République. Il a joué avec le temps. La CDAO, la communauté internationale, notamment l'ONU, tout le monde s'est mis pour le raisonner. Maintenant, il faut que le président constitutionnellement élu puisse vraiment prendre le rein du pouvoir. Donc, l'un dans l'autre, ça ne surprend personne. Que la CDAO intervient là-bas, que la communauté internationale de façon générale intervient là-bas, mais c'est pas personne.
Le Sénégal a toujours géré Yahya Jammeh avec prudence à cause notamment de la crise casamançaise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose cette fois-ci que Dakar affiche son soutien à Adama Barrow, le nouveau président?
Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose, puisque si et seulement si on parvient à éradiquer, j'allais dire, la menace Yahya Jammeh, parce que Yahya peut être possible. Mais s'il y a des prolongements en Gambie qui vont continuer à faire le sale boulot, évidemment la menace est toujours là. C'est-à-dire que le Sénégal va s'assurer d'éliminer carrément, disons, la menace à Yagame. À partir de ce moment, je pense que le dossier casamancier peut évoluer. Parce que, vous savez, Yagame sert de base arrière, la Gambie sert de base arrière à la rébellion casamancière, notamment aux hommes de Saint-Sadio. C'est également derrière nous qui font partie de la garde rapprochée, n'est-ce pas, de Yagame.
Mais il y a quand même l'équation de l'armée gambienne. Est-ce que vous pensez qu'elle sera loyal à Adama Barrow?
Il faut qu'il affiche vraiment son autorité. Ce n'est pas en prenant le bâton, non. Je pense qu'aujourd'hui, il doit s'acheminer des réformes, y compris réformer l'armée, réorganiser l'armée gambienne, qui est complètement délitée, parce que là, franchement, il n'y a pas d'organisation au sein de l'armée-là. C'est pourquoi il y a des mis à une ligne sur cette armée. Donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de réorganiser cette armée, de manière à créer les conditions d'une armée républicaine. Et à partir de ce moment, évidemment, je pense que cette armée-là, quel que soit le président qui va venir, il va lui obéir.
Bakary Domingo Mané, journaliste et spécialiste de la Casamance au Sénégal. Au Nigeria, au moins 90 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées lorsque l'armée de l'air nigériane a bombardé cette semaine par erreur dans le nord-est du pays un camp de déplacés à Ran, des déplacés qui avaient fui les violences de Boko Haram. C'est ce qu'affirme le tout dernier bilan rendu public par Médecins sans frontières qui opérait dans le camp bombardé de Ran. Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, le groupe C prend le relais cet après-midi à Oyem avec le choc RDC Côte d'Ivoire. Les détails sur place à Oyem avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous allons aborder le match de ce vendredi avec la ferme détermination de garder la tête du groupe, a dit en conférence de presse Florent Ibengué. Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC promet également que son équipe va jouer face à la Côte d'Ivoire différemment du Maroc.
Et garder la même philosophie, quel que soit l'adversaire. Maintenant, tactiquement, on ne va pas jouer de la même façon qu'on a joué contre le Maroc.
Du changement attendu également chez les éléphants, annonce Michel Dussuyer, qui parle de la RDC comme un adversaire compétitif, agressif et très généreux.
Il y aura des changements d'attitude, parce que ce premier match, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait dans un match de Coupe d'Afrique.
Oyem, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le second match de la poule C opposera le Maroc au Togo à 19h, temps universel. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.radiomaria.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.